Philippe VI arrivait au trône dans le consentement unanime. Et pourtant, il n'était qu'un roi de Racro, un neveu, un cousin de roi, comme il y en avait tant, un homme fortuné parmi son parentage. Pas un roi désigné par Dieu à la naissance, pas un roi reçu, un roi trouvé, le jour qu'on en manquait. Ce mot inventé par la rue ne diminuait en rien la confiance et la joie. Ce n'était qu'une de ces expressions d'ironie dont les foules aiment à nuancer leur passion et qui leur donne l'illusion de la familiarité avec le pouvoir. Jean le Foll, lorsqu'il répéta cette parole à Philippe, eut droit à une bourrade dont il exagéra la rudesse en se frottant les côtes et en poussant des cris aigus. Il venait tout de même de prononcer le maître mot d'un destin. Car Philippe de Valois, comme tout parvenu, voulut prouver qu'il était bien digne, par valeur naturelle, de la situation qui lui était échue, et répondre en tout à l'image qu'on peut se faire d'un roi. Parce que le roi exerce souverainement la justice, il envoya pendre dans les 3 semaines le trésorier du dernier règne, Pierre Rémy, dont on assurait qu'il avait beaucoup trafiqué du trésor. Un ministre des Finances au gibet est chose toujours qui réjouit un peuple. Les Français se félicitèrent. On avait un roi juste. Le prince est par devoir et fonction défenseur de la foi. Philippe prit un édit qui renforçait les peines contre les blasphémateurs et accroissait le pouvoir de l'Inquisition. Ainsi, le haut et bas clergé, la petite noblesse et les bigotes de paroisse se trouvèrent rassurés. On avait un roi pieux. Un souverain se doit de récompenser les services rendus. Or, combien de services avaient été nécessaires à Philippe pour assurer son élection ? Mais un roi doit veiller également à ne point se faire d'ennemis parmi ceux qui se sont montrés, sous ses prédécesseurs, bons serviteurs des intérêts publics. Aussi, tandis qu'étaient maintenus dans leur charge presque tous les anciens dignitaires et officiers royaux, de nouvelles fonctions furent créées, ou bien l'on doubla celles qui existaient, afin de donner place au soutien du nouveau règne et satisfaire à toutes les recommandations présentées par les grands électeurs. Et comme la maison de Valois avait déjà train royal, ce train se superposa à celui de l'ancienne dynastie et ce fut une grande ruée aux emplois et aux bénéfices. On avait un roi généreux. Un roi se doit encore d'apporter la prospérité à ses sujets. Philippe VI s'empressa de diminuer et même, dans certains cas, de supprimer les taxes que Philippe IV et Philippe V avaient mises sur le négoce, sur les marchés publics et sur les transactions des étrangers, taxes qui, de l'avis de ceux qui les acquittaient, entravaient les foires et les commerces. Ah, le bon roi que voilà, qui faisait cesser les tracasseries des receveurs de finances. Les Lombards, prêteurs habituels de son père, auxquels lui-même devait encore si gros, le bénissaient. Nul ne songeait que la fiscalité des anciens règnes produisait ses effets à long terme, et que si la France était riche, si l'on y vivait mieux que nulle part au monde, si l'on y était vêtu de bons draps et souvent de fourrures, si l'on y voyait des bains et étuves jusque dans les hameaux, on le devait au précédent Philippe, qui avait su assurer l'ordre dans le royaume, l'unité des monnaies, la sécurité du travail. Un roi doit aussi être un sage, l'homme le plus sage parmi son peuple. Philippe commença de prendre un ton sentencieux pour énoncer de cette belle voix qui était la sienne de graves principes où l'on reconnaissait un peu la manière de son précepteur, l'archevêque Guillaume de Tri. « Nous qui toujours voulons raison garder, » disait-il chaque fois qu'il ne savait quel parti prendre. Et quand il avait fait fausse route, ce qui lui arrivait fréquemment, et se trouvait contraint d'interdire ce qu'il avait ordonné l'avant-veille, il déclarait avec autant d'assurance « Raisonnable chose est de modifier son propos. En toute chose, mieux vaut prévenir qu'être prévenu, énonçait encore pompeusement ce roi qui, en 22 ans de règne, ne cesserait d'aller de surprise en surprise malheureuse. Jamais monarque ne débita de plus haut autant de platitudes. On croyait qu'il réfléchissait. En vérité, il ne pensait qu'à la sentence qu'il allait pouvoir formuler pour se donner l'air de réfléchir. Mais sa tête était creuse comme une noix de la mauvaise saison. Un roi, un vrai roi, n'oublions pas, se doit d'être brave, épreux et fastueux. En vérité, Philippe n'avait d'aptitude que pour les armes. Pas pour la guerre, mais bien pour les armes, les joutes, les tournois. Instructeur de jeunes chevaliers, il eût fait merveille à la cour d'un moindre baron. Souverain, Son hôtel ressembla à quelque château des romans de la Table Ronde, qui était beaucoup lu à l'époque et dont il s'était fort farci l'imagination. Ce ne furent que tournois, fêtes, festins, chasses, divertissements, puis tournois encore, avec débauche de plumes sur les haumes et chevaux plus parés que des femmes. Philippe s'occupait très gravement du royaume, une heure par jour, après une joute d'où il revenait ruisselant, ou un banquet dont il sortait la panse lourde et l'esprit nuageux. Son chancelier, son trésorier, ses officiers innombrables prenaient les décisions pour lui, ou bien allaient chercher leurs ordres auprès de Robert d'Artois. Celui-ci, en vérité, commandait plus que le souverain. Nulle difficulté ne se présentait que Philippe n'en appelât au conseil de Robert, et l'on obéissait de confiance au comte d'Artois, sachant que tout décret de sa part serait approuvé par le roi.